Hello, chers cavaliers, chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur C'est pas sorcier, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Ce podcast, il est complémentaire au blog j'entraînemoncheval.com. Avec le blog, on fait dans le concret. On parle conseils, exercices, matériel, on détruit les mythes de l'équitation. Mais au final, tout ça, ça se fait les deux pieds dans la carrière. Alors, le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres et j'espère que nous trouverons des clés ou en tout cas des axes de réflexion sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Aujourd'hui, pour cet épisode « C'est pas sorcier de faire voyager un cheval », nous allons parler du vent. Jean-Luc Fautra, mon invité, s'est rendu célèbre en créant la marque de vent que vous connaissez bien et qui est à son nom. Vous verrez dans l'épisode que Jean-Luc est un géotrouve-tout permanent et qu'en fait, à chaque fois qu'il se dit « j'en ai marre de quelque chose », eh bien il arrive à trouver une solution. C'est ainsi, avec la phrase « j'en ai marre de pas trouver de vent qui me convienne » que l'histoire des vents Fautra a démarré. Jean-Luc nous partagera tout au long de l'épisode ses conseils pour bien embarquer nos chevaux et les faire voyager. Par exemple, comment familiarise-t-on son cheval avec un vent? Comment lui faire appréhender l'absence de pont? D'ailleurs, en quoi c'est une bonne chose cette absence de pont selon Monsieur Fautra? Que faire quand son cheval ne supporte pas les voyages? On prendra par exemple le cas du cheval qui ne voyage plus dans un vent de place, accompagné, ou celui qui ne voyage bien que quand il est seul dans un vent de place. Jean-Luc nous expliquera les raisons de ce comportement et quelles sont les solutions possibles. Et puis tiens, d'ailleurs, par curiosité, comment est-ce qu'on fabrique un vent? Est-ce que c'est comme une voiture? Ça aussi, il va nous l'expliquer. Au cours de l'épisode, Jean-Luc nous partagera également la marque Fautrastus, qui est en fait la marque qui rassemble toutes ses inventions qu'il a créées en dehors de la marque de vent pour faciliter la vie des cavaliers. Vous verrez, il y a des pépites. Je vous invite à aller faire un tour au prochain salon ou aller voir leur site internet. Il y a de très bonnes idées. Allez, il est temps de lancer l'épisode « C'est pas sorcier de faire voyager son cheval ». Alors bonjour Monsieur Fautra.
Bonjour.
Merci de m'accueillir sur le salon Équitalion, sur votre stand.
Mais c'est un plaisir.
Je suis ravie de vous rencontrer. Ce monsieur Fautras, en tout cas dans le milieu de l'équitation, c'est quand même quelque chose. Donc je suis vraiment contente d'être en face de vous aujourd'hui.
Monsieur Fautras, c'est un homme comme les autres qui a bâti une petite entreprise de fabrication de vent, puis qui développe d'autres produits tout simplement, et puis qui continue à travailler dans la passion, et c'est tout. Rien de plus.
Mais c'est quand même un bel entrepreneur, un homme qui a réussi à vivre de sa passion à fond.
Oui.
C'est quand même une belle histoire très inspirante pour de nombreux cavaliers.
Oui, et puis en plus on a la chance de la transmettre à un fils qui reprend les rênes de l'entreprise de fabrication des vents, donc l'histoire va continuer j'espère un moment, à suivre.
Mais je le souhaite en tout cas. Monsieur Fautras, j'aimerais reprendre avec vous l'historique un peu de votre marque sur la création en fait du vent. Si j'ai bien compris l'histoire, elle remonte à 92 à peu près.
Oui.
Et c'est le moment où vous avez décidé de vous lancer parce que vous n'aviez pas de vent à votre convenance sur le marché.
C'est exact. Pour refaire un historique rapide, je suis issu d'une famille de marchands de chevaux plus que de cavaliers. Mon grand-père vendait des chevaux de trait après la guerre. Mon père a poursuivi. Étant né à Saumur, mon père a créé un centre hippique à la sortie de Saumur, le premier club hippique civil de Saumur. J'ai donc baigné tout petit dans les chevaux, le sport équestre, qui à l'époque où j'étais petit, c'était en cours de développement, quoi. Il n'y avait pas l'effervescence qu'il y a actuellement. Ensuite, par le biais des manifestations équestres, j'ai rencontré une personne avec qui je me suis marié, une femme tant qu'à faire, avec qui on a poursuivi l'entreprise de son père qui était de distribuer des vents de marque anglaise.
D'accord.
On a développé un réseau commercial, grosso modo, de 80 à 91. En 91, le fabricant anglais a souhaité vendre en direct à tous mes agents, donc on s'est retrouvé un peu sans produits à distribuer. J'étais allé les voir pour leur proposer des innovations, des améliorations dans les vents qui ne donnaient pas satisfaction à mon goût sur certains aspects. Et comme il y a eu une rupture entre nous, j'ai développé en direct les produits avec les innovations que j'avais en tête. Ça a commencé par faire des portes à l'arrière d'un vent, et puis petit à petit, on a développé des choses, de détails dans les accessoires, des séparations souples, des barres de sécurité.
Attendez, je me permets, je reviens du coup sur les deux portes à l'arrière,
oui.
Qui étaient en rupture à l'époque, j'imagine.
Grâce à mon père, j'ai souvent eu l'occasion d'embarquer des chevaux, comme il était marchand de chevaux. On allait chercher les vents à l'époque avec un vent une place, un essieu, qui permettait d'aller chercher un poulain, un cheval qu'on achetait à droite à gauche. Alors évidemment, on battait la campagne pour aller chercher des animaux. Et j'adorais ça. Et j'avais interdiction d'essayer de monter un cheval avec le pont. Parce que le fait de monter sur un pont, et encore plus sur un vent en essieu, ça crée un mouvement du vent, parce que le cheval mettant le pied sur le pont, ça faisait basculer. Et donc on risquait de faire peur au cheval et qu'il ne monte plus du tout après. Donc avant de commencer à monter le cheval, on enlevait le pont qui se déboîtait, on le mettait sur le côté, on mettait le vent le long d'un mur et on faisait monter le cheval sans pont, mais la marche était beaucoup plus haute que sur les vents qu'on produit actuellement. Et on n'est jamais revenu sans le cheval, quoi. Donc ça marchait toujours très bien grâce au fait qu'on n'ait pas de pont. Enfin qu'on puisse l'enlever en tout cas. Du coup, quand j'étais amené à faire des vents, à vendre des vents, j'ai toujours été confronté à des gens qui ne pouvaient pas monter leurs chevaux dans les vents. Alors avec un peu d'expérience, quelqu'un qui prend un peu de temps et qui sait s'y prendre va toujours mieux y arriver que quelqu'un qui ne sait pas. Mais quand on a un vent avec un pont, on a quand même un obstacle majeur pour monter les chevaux dans les vents. Alors quand j'ai fait mes premiers vents, j'ai donc fait des vents avec des portes qui en plus canalisent le cheval de chaque côté et donc éliminent ce pont, quoi. Donc à partir de ce moment-là que j'ai communiqué sur le fait que les chevaux montaient sans pont, j'ai eu beaucoup de clients qui me disent « si vous montez mon cheval dans le vent avec votre vent, je vous l'achète ».
Ça a fait un buzz du coup à l'époque où c'était quand même bizarre. Est-ce qu'on vous a pris pour un fou ?
On m'a pas pris pour un fou. Il y a des gens qui me disaient « mais tu vas pas y arriver, personne ne voudra monter un cheval sans pont », etc. Mais j'ai dit « oui, mais c'est pourtant comme ça que ça marche mieux ». Donc j'ai suivi mes idées avec certitude et entêtement peut-être, mais j'étais, j'étais sûr de moi parce que ça marchait 10 fois mieux, je l'ai vécu toute mon enfance, quoi. Donc j'ai permis à des gens qui ne montaient pas leurs chevaux dans les vents de monter. Après j'ai fait des expos même en Allemagne avec le temps où j'ai fait des tas de démonstrations chez les gens directement qui avaient acheté des vents, qui ne pouvaient pas les utiliser. J'allais chez eux, 5 minutes après le cheval était dans mon vent. Ça en a bluffé plus d'un, mais en fait c'était pas de la magie, c'était simplement que c'est tellement plus simple de monter un cheval sans pont.
Oui, mais c'est parti de l'observation et vous avez réussi à apporter une solution simple.
Voilà, et puis en plus, le fait d'avoir des portes permettre de fermer une porte derrière un cheval quand il est monté. On monte le deuxième avec une protection. C'est-à-dire quand on monte le deuxième, on est protégé par cette porte des coups de pied éventuels de l'autre cheval, ainsi que le cheval qui monte derrière. Donc on a tous les avantages et on a fait, je ne sais pas, peut-être 50 000 vents, je ne sais pas calculer exactement, mais ils sont tous faits avec des portes. C'est ce qui fait le succès de la marque. Alors à partir de cette... aménagement particulier qui a fait un peu l'image des vents Fautra. On a développé d'autres produits qui ont permis d'améliorer le transport.
Je me permets, du coup, en 94, soit 2 ans après, vous avez fait le transport en diagonale. Une autre innovation de rupture, ça vous est venu comment, cette idée ?
Tout simplement par l'expérience. Alors, il y a quand même des chevaux, même s'ils montent dans les vents, qui voyagent très mal et qui se couchent dans les vents, qui s'appuient sur les séparations, qui pédalent, qui sont vraiment intransportables, quoi. Donc on s'aperçoit que ces mêmes chevaux, si on les met tout seuls dans un vent de place, par exemple, avec beaucoup d'espace, il n'y a plus de problème.
Ah j'ai un cheval comme ça, d'ailleurs, dans mon écurie, exactement.
Le problème va être facile à régler. Il suffit d'utiliser un vent plus large, en oblique. On s'apercevait que des chevaux qui ne voyageaient pas en long dans un vent de place voyageaient bien dans les camions. Et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi, parce que quand on nous pose le problème sans qu'on y ait réfléchi, et pourquoi un camion, pourquoi en travers, alors est-ce que c'est le fait qu'il ait la croupe en avant, qu'il voyage de côté, j'ai essayé de comprendre tout bêtement pourquoi ça marche, et c'est assez simple en fait, le cheval pour se stabiliser dans un voyage écarte les postérieurs. Comme nous dans un métro, si on nous attache les mains...
On a tendance à écarter les jambes.
On écarte les jambes pour se stabiliser, c'est exactement le même phénomène pour le cheval. Le problème, c'est que quand un cheval est dans un vent en long, il a les parois qui sont parallèles à son corps. Dès qu'il écarte les postérieurs, il se retrouve à pédaler sur la paroi qui est d'un côté ou de l'autre. Alors pour peu qu'on mette une séparation rigide jusqu'en bas, c'est une catastrophe, il y a tous les chevaux se cassent la figure. Du coup, j'ai commencé par faire des séparations souples, parce qu'on s'aperçoit également que dans un vent de place, si on a un cheval qui voyage mal et qui se casse la figure, si on enlève la séparation et qu'on voyage deux chevaux sans séparation, il n'y a plus de problème. Alors ça étonne beaucoup les utilisateurs, mais c'est une réalité et ça marche vraiment très bien. Alors j'ai même des professionnels qui voyagent systématiquement sans séparation, qui me changent les vents régulièrement, je récupère des séparations neuves, ils ne les ont jamais utilisées. Et ils mettent des chevaux qu'ils ne connaissent pas, qui vont chercher un peu partout et ça marche vraiment très bien. Le problème, c'est que commercialement, si on propose aux gens de mettre un vent sans séparation pour mettre deux chevaux, on ne va jamais les vendre. Hein. C'est clair que ça va poser un problème commercial.
Il y a une barrière psychologique, je pense. Voilà.
Après expérience de chevaux qui voyagent bien en camion, mais j'ai fait un vent plus large pour mettre les chevaux en travers. Et le travers est trop large parce qu'on se retrouve avec des remorques beaucoup trop larges, donc on a fait un compromis. Donc un vent un peu plus large qu'un vent en long, avec un biais, alors on a fait des vents 2 mètres de large, mais qui dit 2 mètres dit vent très large, caisse très large, et encombrement important pour la voiture. Et puis on s'aperçoit que 1,80 m, bon j'ai fait des essais un peu dans toutes les positions, les largeurs, etc. Et c'est la véritable manière d'améliorer les choses, c'est les essais, parce que la théorie c'est une chose, la pratique c'en est une autre. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour nous expliquer avec de la théorie, sans avoir aucune expérience, alors ça marche pas. Quand on me dit qu'un cheval monte pas avec un sampon, c'est que les gens n'ont pas essayé, quoi. Et bon, on a été confronté à beaucoup de cas dans ce genre. Mais donc, pour en revenir à l'oblique, j'ai fait des vents plus larges, et puis on s'aperçoit que le cheval peut écarter les postérieurs beaucoup plus facilement, puisqu'il n'a plus une paroi contre lui directement. Et il suffit simplement qu'il ait assez de longueur et un peu de biais pour écarter les postérieurs. Et là,
il est heureux, il voyage très très bien.
Voilà, il peut écarter, il peut se stabiliser, il voyage bien. Et le vent n'est pas trop encombrant. Ce qui fait qu'on a dans notre gamme le modèle qu'on appelle oblique, qui peut se décliner en 2 places, 3 places ou 4 places, qui est le vent le plus pratique qui existe quoi, sur le marché. Enfin, pour faire le même ailleurs, mais ce concept-là est le meilleur. Les chevaux voyagent tête à gauche en avant. On manipule toujours un cheval du côté gauche de base, enfin c'est pas nouveau ça. Et le fait qu'il voyage tête à gauche permet qu'on soit toujours à gauche du cheval pour le monter. On peut le tourner dans le vent, on peut le sortir par l'avant, avec des séparations souples qui ne bloquent pas les chevaux. Enfin, on a tous les ingrédients pour améliorer et l'embarquement, et le transport, et le débarquement également.
Je note qu'après vous avez fait dans vos vents ce que vous appelez le plancher progressif.
Oui.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Si j'ai bien compris, c'est un petit peu plus bas au niveau des postérieurs, c'est ça?
Oui, c'est ça. À l'origine, j'ai fait des vents sans pont. Bon, pour l'embarquement, il n'y a pas de souci. Après, il s'agit du débarquement. Alors, on peut sortir le cheval par devant, mais personnellement, je les sors plus par l'arrière quand j'utilise un vent en long, style Provent, quoi. Et pour reculer les chevaux qui ne sont pas habitués, on se retrouve avec une marche qui fait trentaine de centimètres, 30-40 centimètres. Donc on a eu l'idée au départ de faire un pont coulissant. Ce n'était pas une invention extraordinaire puisque ça avait déjà été pratiqué dans certaines bétaillères. Donc un simple pont coulissant dessous limite la marche. Ça fait deux petites marches de 8-10 cm qui font une progression qui permettent de... Mais c'est un inconvénient majeur, c'est que ce n'est pas pratique du tout à tirer, à glisser, à remettre. Et puis en fait, on ne s'en sert jamais pour monter. Alors je me suis dit, on va essayer de simplifier les choses. Donc j'ai essayé de baisser le plancher, mais comme on est limité par l'appui qu'on a sur les essieux et la hauteur des roues, on est bien obligé d'avoir un espace entre le plancher de la route, enfin le plancher et la route. Du coup, j'ai eu l'idée de baisser le plancher derrière l'appui des essieux. Alors au départ, j'ai fait une pente et ça marche pas parce que les chevaux n'étant pas sur un appui plan, ils voyagent très mal. Du coup, après, j'ai fait deux niveaux. Une première pente, une partie plane où s'appuient les postérieurs et une deuxième. Et là, on gagne, je ne sais plus combien, une dizaine de centimètres, qui réduit la marche et pour l'embarquement et pour le débarquement en reculant. Alors après, il y a une petite astuce pour débarquer les chevaux en marche arrière. Quand ils ne sont pas habitués, parce qu'on peut toujours constater qu'ils craignent un peu de reculer s'ils ne savent pas s'ils ont derrière 20 cm ou 2 mètres, sinon pas les rétroviseurs. Et du coup, il faut simplement leur faire comprendre au départ. Un cheval, c'est pas si bête que ça. Et ça comprend très vite. Donc il suffit de monter le cheval que les antérieurs pour les premières fois. On recule, on stoppe, on recule, on monte, on recule, on monte, on recule que les antérieurs. Et une fois qu'il a compris qu'on pouvait reculer du vent sans se faire peur et puis qu'il a maîtrisé un peu l'endroit où se trouve le sol, parce qu'il l'assimile très très vite, ben, on fait dans la foulée un embarquement complet, on recule immédiatement, on le fait une fois ou deux, et là on a expliqué au cheval ce qu'il doit faire et ça se passe très bien après.
D'accord, merci du conseil.
Oui,
je pense que ça aidera beaucoup de gens. Alors du coup, avec toutes ces innovations, je me demandais si vous aviez une équipe R&D comme les autres marques, on va dire, un petit peu à la pointe en technologie. Ou est-ce que vous êtes juste un super géotrouve-tout MacGyver qui fait tout ?
Ouais, j'ai pas de prétention, mais depuis tout petit, je cherche des solutions aux petits problèmes et ça m'amuse. C'est comme un joueur d'échecs qui essaie de trouver la solution. Ça me fait ça. Dès que j'ai un petit problème, j'essaie de trouver une solution. Alors c'est plus un jeu qu'autre chose. Et puis, tout en jouant, on trouve des solutions efficaces à des problèmes réels. Ça peut se situer dans le transport des chevaux via les vents ou camions, des côtés pratiques. Et puis à force de réfléchir, à force de trouver des solutions, on devient un peu plus averti, un peu plus... Enfin, on comprend plus vite certaines choses, on ne comprend pas tout, mais on comprend plus vite les techniques et puis ce qui aide, et donc on améliore un certain nombre de choses. Alors cet esprit de recherche m'a amené à développer des produits dans d'autres domaines que les chevaux, enfin, et en tout cas dans le domaine des transports de chevaux.
C'est la marque Fodrastus, du coup ?
Alors du coup, j'ai fait des choses pour mes besoins personnels. J'ai commencé par faire des tapis.
D'accord.
Parce que quand on a des chevaux chez soi, pour avoir le plaisir de les avoir, on a un gros inconvénient, c'est le fait de les entretenir, créer des boxes chez soi, mettre la paille, enlever la paille, enfin, c'est une corvée monumentale. Et du coup, ça gâche vraiment le plaisir. Alors comme j'étais amené à le faire moi-même, que je n'avais pas envie de me casser la tête avec ça, j'ai cherché des solutions. Alors j'ai trouvé plein de solutions qui ne marchent pas. Hein.
Mais au moins, vous êtes sûr que ça ne marche pas, il ne faut pas les faire.
Voilà, donc, mais si vous voulez, il n'y a qu'en cherchant et en se donnant le mal de faire des essais qu'on constate si c'est bien ou si c'est pas bien. Et petit à petit, une idée dans une nuit d'insomnie ou une longue route qu'on met en application, parce que avoir des idées, c'est une chose, mais après, il faut être capable
de les réaliser.
Quoi. Du coup, j'ai fait mes premiers tapis avec écoulement d'urine qui permettent d'utiliser un box sans litière. Alors ça choque énormément de voir un cheval sur un simple caoutchouc. Moi-même, quand j'ai fait ça, je me suis dit, pauvre bête, il ne va même pas avoir un bout de paille. Mais en fait, le cheval, il s'en fout complètement. Quand il est dans les prés, on ne se préoccupe pas de savoir s'il pleut, s'il ne pleut pas, s'il fait chaud.
C'est vrai, il est sur le sol direct.
Il est sur le sol. Si le sol est très dur en été, qu'il se couche, on n'y pense même pas. Et disons qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réflexions, disons que les mêmes besoins que nous. Nous, on a besoin d'un lit moelleux. Eux, ils ont besoin d'un sol qui ne glisse pas pour se relever quand ils se couchent.
Oui, on a tendance à faire de l'anthropomorphisme, en fait, là,
exactement.
Sur la litière, par exemple.
Si vous imaginez un sol très moelleux sur un sol très lisse pour un cheval, il va peut-être marcher sur un sol mou, mais d'ailleurs, il ne va pas y être très bien, parce qu'il a besoin de quelque chose qui réagisse à son appui. Pour se coucher, nous, ça va être impeccable, mais pour lui, si le sol est lisse et mou, il ne va pas pouvoir se relever facilement, parce que quand il prend ses appuis pour se relever, ça glisse. Et c'est comme ça qu'ils se font mal aux jarrets, qu'ils se font mal au dos, parce qu'ils sont obligés de se contracter beaucoup plus pour se relever. Alors que si le sol accroche, dans du sable par exemple, ou sur un sol naturel, le cheval se relève sans difficulté, et il faut qu'on arrive à reconstituer cet aspect dans les boxes. Alors ça part de tapis antidérapants. Alors à partir du moment où on a du caoutchouc, déjà on améliore l'accroche, et si on ajoute à cette matière des formes un peu onduleuses, enfin un peu bosselées du moins, on améliore encore l'accroche, parce que le fer va toujours s'accrocher plus facilement sur un sol bosselé. Du coup, les bosses qu'on utilise pour l'écoulement font en même temps de créer une aide pour que le cheval se lève. Donc on arrive à répondre à plusieurs besoins dans le même produit. Et là, donc, on a un confort d'isolation du froid avec mes tapis, on a un écoulement d'urine, le cheval n'a jamais les pieds dans l'urine.
Oui, je comprends. Vous partez vraiment du besoin, en fait, et puis vous arrivez à proposer une solution. À chaque fois, c'est votre façon de penser et de créer vos produits.
Voilà, il faut commencer par savoir quel est le problème et comment on peut le résoudre. Et puis souvent, on trouve d'autres solutions. Enfin, on résout d'autres problèmes avec une même solution. Enfin, c'est l'idée, c'est l'idéal, en fait. Hein. Et c'est ce que j'ai réussi à faire dans un certain nombre de produits.
Donc pour Fodrastus, du coup, c'est une marque qui est beaucoup plus récente, qui date de 2012, je crois. Vous l'avez créée en 2012, il me semble.
Oui, c'est possible, je n'ai pas la date en tête. Si vous voulez, on n'a pas fait une marque par rapport à un souhait de développement de marque. J'avais déjà développé des produits pour mon usage personnel. Mais un seul produit à proposer, bon, c'est ni rentable ni très intéressant. Donc, comme j'en avais fait plusieurs, à partir du moment où j'avais plusieurs produits intéressants à proposer, ma femme a eu, avec des astuces, donc on a eu. On
j'aime
a fait
beaucoup
la
le nom.
Oui, Fautra astuce, ça tombait bien. C'est une idée de ma femme, celle-là, faut pas lui enlever. Eh ben, sa participation.
Oui, mais c'est un nom hyper intéressant et qui parle vraiment oui, beaucoup.
Oui, mais donc les gens aiment bien me le dire et on m'appelle Monsieur Fautrastus souvent. et c'est rigolo.
Après, j'y retrouve tout Fautrastus maintenant, attention. Et j'aime beaucoup parce que votre slogan, c'est la facilité en plus et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous avez eu envie de créer avec cette gamme. Alors, je partage aux auditeurs, mais vous avez créé par exemple du matériel équestre avec des obstacles.
Oui.
Les fiches astuces, pour le même nom, des barres qui sont plus légères en alu.
Voilà, oui, bon, ça c'est d'autres produits que j'utilise titre personnel, puisque ça part toujours d'un besoin personnel, enfin souvent, ou d'une remarque. J'avais besoin de me faire des barres, et puis ce qu'on trouve dans le commerce, c'est pas du tout pratique. Les barres en bois sont lourdes, elles se cassent. Et puis j'ai eu l'idée un jour de faire des barres en aluminium, alors j'ai fait faire une filière spéciale. Et pour que les barres soient solides, il faut qu'elles soient octogonales. Si on les fait en tube rond, elles sont beaucoup plus fragiles, elles résistent moins aux impacts. Du coup, alors ça a un autre intérêt, c'est que le fait d'avoir des rainures sanctionne un peu le cheval sans risquer de le blesser, puisque les barres ne sont pas du tout agressives en termes de coupure. Mais comme elles sont plus raides, quand le cheval les touche, ça lui est plus désagréable sans pour autant le blesser, et ça crée un peu plus de respect. Les gens qui croient que le fait qu'elles soient octogonales vont être plus dangereuses que des barres rondes se trompent parce que, en fait, c'est le poids qui fait le danger. Si une barre fait 5 kg, si elle en fait 15, c'est pas pareil. Quand le cheval tape dans une barre de 15 kg, l'inertie créée par le poids peut créer un hématome dans les genoux, voire une fracture, enfin pour des chocs très violents. Alors que des barres en aluminium sur un impact équivalent, comme elles sont légères, elles se dégagent plus facilement et ne créent pas du tout de blessures. Donc on améliore énormément la sécurité grâce à ces barres pour les chevaux, tout en créant le respect, parce que le bruit que ça crée éveille le cheval et fait que le cheval fait plus attention. Alors comme le but de l'initiation à l'obstacle, c'est de faire sauter les chevaux sans faire tomber les barres, si on arrive à éveiller le cheval sans qu'il en ait des contraintes physiques, c'est top.
Ah bah oui, c'est éducatif.
Éducatif sans créer de danger et de douleur, quoi.
Je profite du coup pour parler un petit peu de cette marque que j'ai découvert ici et je m'en excuse.
Mais il n'y a pas de souci. C'était une belle découverte pour l'un comme pour l'autre.
Et du coup, je vous parle aussi du râtelier, des barrières automatiques que vous avez créées. Même chose, vous êtes parti d'un constat, j'en ai marre d'eux.
Par exemple, c'est-à-dire que j'ai une petite carrière chez moi, mais je travaille beaucoup dans les prairies. On a la chance d'avoir dans notre coin des terrains un peu vallonnés. Donc le fait de monter, descendre des pentes avec des chevaux, il n'y a pas plus simple et plus efficace pour les muscler. Donc le terrain varié, alors comme les carrières sont toujours plates, pour aller en terrain varié, il faut sortir. Alors comme j'ai des prés et des clôtures, comme tout le monde, il faut descendre, ouvrir la barrière, refermer la barrière, c'est vraiment pas simple. Donc je me suis mis au point une barrière qui se lève du cheval, on n'a pas besoin de descendre du cheval, on tire sur une ficelle, enfin un petit câble, et qui élève une barrière et qui redescend toute seule. Alors ça semble facile d'imaginer quelque chose avec un contrepoids, mais il faut être sûr qu'elle referme, il faut être sûr qu'un cheval ne l'ouvre pas. Il y a quand même des contraintes qui se créent quand on veut créer, enfin quand on met au point ce produit. Alors j'ai mis assez longtemps à faire le produit qui marche très bien et là je l'ai réalisé. On n'en fait pas une grosse promotion parce que c'est pas une demande que tout le monde a, mais ceux qui en ont en sont ravis, enfin moi le premier, puisqu'on peut traverser d'un pré à l'autre avec des chevaux qui sont efficacement enfermés. On n'a pas besoin de descendre, on ouvre une barrière et elle se referme toute seule, tout doucement. Alors c'est aussi valable pour les carrières de travail, où on peut préserver la sécurité. Une carrière doit toujours être fermée et personne ne le fait. Et si on le fait, c'est avec une chaîne ou une barre, c'est oui, vraiment contraignant et personne ne le fait non plus parce que c'est trop compliqué. Mon système de fermeture, c'est ce que j'ai chez moi. Je travaille beaucoup de jeunes chevaux, je dresse mes poulains, etc. On n'est pas à l'abri d'un cheval qui nous échappe ou une chute et que le cheval s'en aille. La barrière est toujours fermée, mais c'est tellement simple à ouvrir et comme ça se ferme tout seul, qu'on a cette sécurité.
C'est vraiment de la sécurité, parce que c'est ce qu'on reproche souvent aux EPI, je me permets de vous couper, par exemple sur les gants, sur les lunettes, c'est que finalement c'est tellement contraignant que personne ne les met.
Oui.
Et du coup, là, si, comme vous avez créé le côté facile, et c'est facile d'être en sécurité.
Voilà, oui, c'est la priorité. Si c'est compliqué, on ne le fait pas. Donc, moi-même qui ne suis pas adepte du travail inutile ou difficile. on est obligé d'ouvrir pour rentrer, mais on le fait tellement simplement qu'on n'a même pas besoin de fermer, ça se referme tout seul.
Et vous parliez du temps, du coup, que vous avez fait plusieurs protos et que ça vous a mis du temps. En moyenne, quand vous avez une idée, vous arrivez à la concrétiser en combien de temps? Alors, je parle pour Fiche Astuce, mais je parle aussi pour les vents. On va revenir après sur toutes les innovations que vous avez continué à faire sur les vents.
De l'idée au prototype, à la réalisation, ça peut aller très très vite parce qu'on est pris par l'enthousiasme et la volonté d'aboutir à l'idée qui semble formidable. Puis quand on a fini de la réaliser, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors ça prend...
Il y a plusieurs itérations, j'imagine.
Il y a énormément de modifications et d'améliorations qui se créent et ça peut prendre des années.
Pour la barrière, par exemple, vous avez mis combien de temps?
Par rapport à entre la première et ce que j'ai fait aujourd'hui qui marche hyper bien, qui est beaucoup plus simple, 2 ou 3 ans. Mais si vous voulez, on n'y travaille pas pendant 2 ou 3 ans. On fait un produit.
Mais c'est comme de l'innovation, c'est par période.
Voilà, on fait un produit qui marche pas mal. Et puis on s'aperçoit un jour que, tiens, si on faisait comme ça, ça marcherait peut-être mieux. Alors on essaye autre chose. Mm-hmm. Et puis après, on revient et on repart. Entre le produit imaginé et le produit réalisé, ça peut être plusieurs années.
Oui, je comprends. Et comme une innovation classique.
Voilà. Mm-hmm. Et donc, en ce moment, je travaille sur des fiches pour porter les barres. Ça fait 4 ou 5 ans que j'ai fait mes premières fiches avec des idées nouvelles qui marchent pas mal puisque je les ai toujours chez moi. Et puis au fur et à mesure, je m'aperçois que pour les fabriquer, c'est pas si simple. Il y a des inconvénients de telle manière. Donc là, je suis encore en train de les développer.
Amélioration continue.
Voilà,
tout le temps.
On est toujours en train d'améliorer un produit.
C'est jamais fini chez
vous. Non, on est en permanence en train d'améliorer, de chercher et de trouver ou pas.
Alors, du coup, avec toutes ces idées que vous avez, est-ce que vous avez par exemple un designer qui vous aide ou c'est aussi vous qui concevez, qui dessinez tout
Oui, c'est moi qui le fais. Le problème, c'est que je ne sais rien faire. C'est-à-dire je n'ai jamais appris à dessiner, je n'ai jamais appris à souder, je n'ai jamais appris à faire de la résine. Alors c'est vraiment des brouillons de tout ce que je fais personnellement, mais les dessins sont assez explicites pour permettre à quelqu'un qui est un ingénieur ou un designer de les mettre en application. Et donc je fais des crobards entre guillemets, quoi. Mais je suis capable de dessiner n'importe quoi de manière brouillon, mais assez clairement pour que le spécialiste...
L'équipe après prenne le relais Alors, je reviens sur les vents, parce que du coup, ça m'intéresse. J'ai jamais eu d'expert en vent en face de moi. Est-ce qu'un vent, entre guillemets, c'est la même conception qu'une voiture? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi des chaînes d'assemblage qui sont proches des chaînes de voiture? Comment ça se fabrique?
On ne va pas se comparer aux voitures, puisque les voitures sont très, très automatisées. Toute une question de volume. Quand on fait un prototype, on fait ça avec un gars ou deux et on bricole, quoi. On soude les morceaux, on coupe, on adapte, on ajuste, on monte et ça se fait avec une ou deux personnes.
D'accord.
À partir du moment où un produit est défini, qu'on sait qu'on va faire une série parce qu'on a la vente possible ou la vente déjà réalisée, on met en place des équipes, c'est-à-dire qui font par exemple, qui vont couper la ferraille pour faire les châssis, d'autres qui vont les souder. Une fois que les morceaux sont soudés ensemble, on fait des assemblages en chaîne.
D'accord.
C'est-à-dire on fait des piles de châssis qu'on met au début de la chaîne et puis on assemble avec les essieux. Un peu plus loin, on va mettre les planchers par exemple. Après, on fabrique la caisse petit à petit. Donc, ça s'est fait progressivement, un peu comme pour tout ce qui se développe. On a commencé par... on a des zones d'atelier qui fabriquent tout ce qui est métallique, châssis, tout ce qui est ferraille. Un autre atelier qui fait tout le polyester. Alors, il a fallu faire des moules. Au départ, on a fait les moules nous-mêmes. Après, on les sous-traite. Les moules de polyester. Les pièces de polyester.
Des coques, en gros,
pour faire les toits, pour faire des formes de coques complètes, des remorques complètes.
Ça ressemble à quoi, un moule? C'est comme un moule à gaufre? Ou ça n'a pas du tout cette forme-là dans le concept?
Si vous voulez, Le moule, c'est la forme de la remorque. Alors supposons qu'on fasse un toit devant. Pour fabriquer un moule, il faut faire un faux toit, c'est-à-dire on fait un toit dans des matières qu'on peut travailler. Ça peut être aussi bien du plâtre que de la mousse, que du bois, que n'importe quelle matière qui est souvent. Maintenant, c'est plutôt de la mousse, des mousses rigides, un peu polystyrène. Ça ressemble à ça. On travaille la forme, c'est-à-dire qu'on la sculpte comme on sculpterait une statue. Une fois que la pièce est définie dans sa forme, on améliore l'aspect par des ponçages. On enduit dessus des résines qui donnent un aspect lisse, enfin l'aspect qu'on souhaite avoir en forme définitive. Et par-dessus, pour prendre l'exemple d'un toit, ce faux toit, créé de manière, fabrication de poinçon, enfin on appelle ça un poinçon, une matrice, on coule dessus de la résine, on l'enduit de résine. Et avant d'enduire, on met un produit qui empêche que ça colle, un produit auto-démoulant. Donc, quand on a fini de mouler cette pièce, et bien en enlevant la pièce qu'on vient de faire par-dessus, ça c'est le moule.
Ouais, d'accord.
Et après, on fait le contraire pour faire les pièces.
D'accord.
Du coup, on a fait nous-mêmes nos premières pièces et nos premiers moules pour les différents modèles. Ça prend énormément de temps quand on le fait de manière manuelle. Alors après, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui travaillent avec des machines des très techniques, avec 5 axes, qui font beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus cher, si vous voulez, en apparence, mais on a une qualité de fabrication bien meilleure. Et maintenant, on ne fait plus rien nous-mêmes de ce qui concerne les moules. Quand on veut faire un moule, on le fait sous-traiter à des spécialistes.
Toujours en France, du coup, à chaque fois?
En France, bien sûr, oui. Alors du coup, à force de faire tout, c'est-à-dire qu'on crée la fabrication de la partie métallurgie, on fait le polyester, on fait l'assemblage, bien entendu, et puis comme on en fait pas mal, y a toute une gestion de stock, etc., de flux intérieur. On a à peu près 80 personnes pour gérer tout ça dans l'entreprise. En partant de rien au départ, d'une idée de fabriquer un vent, ça permet de faire vivre 80 familles, c'est déjà pas mal.
Sans compter
les sous-traitants de droite et de gauche qui nous font certaines pièces ou accessoires, quoi.
Et sans compter l'impact sur les cavaliers après coup pour faciliter leur voyage.
C'est la base du produit.
Alors là, c'est des vraies questions de curiosité. Est-ce qu'il y a des essais, par exemple, en soufflerie pour les vents, comme on peut avoir pour... Je me rapproche des voitures, même si j'ai compris que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la chose que je connais, entre guillemets.
Disons que c'est toujours une question de volume. On n'a pas les mêmes moyens pour fabriquer 1000 vents dans une année que pour faire 100 000 voitures.
Oui, voilà, ça c'est sûr.
Les essais en soufflerie ne sont pas indispensables, surtout que... Quand on tracte des chevaux, la première idée, c'est pas de consommer le moins possible ou d'aller le plus vite possible. Donc la forme n'a pas un impact important. Du coup, c'est à l'usage, le soufflerie, elle se fait derrière la voiture, quoi. On s'aperçoit que certaines formes opposent moins de résistance et que d'autres plus. Et c'est simple à comprendre, les formes arrondies, la forme de l'œuf, ni plus ni moins, quoi, résistent beaucoup moins dans l'air et c'est plus facile à tirer. D'où les premières formes d'obliques qu'on a fait, qui sont des formes totalement rondes.
D'accord.
Et on s'aperçoit que ça roule très très bien comme ça. Donc quand on a compris ça, on va pas fignoler dans le détail l'aérodynamisme, parce que de toute façon c'est pour rouler à 90 km/h en gros. Alors on arrive à rouler beaucoup plus vite, évidemment, on est hors réglementation très souvent. Enfin, de toute façon, on va pas atteindre des vitesses énormes, donc ça paraît une importance énorme, quoi.
Et vous avez d'autres tests de roulage, de stabilité? C'est des choses que vous faites
Bien sûr. Alors les calculs, ça sert à rien. C'est l'habitude. On sait qu'il faut plus de poids sur une remorque pour qu'elle tienne la route. Il ne faut pas qu'il y ait plus de poids derrière que devant. C'est comme une caravane, c'est pareil. Et les gens
beaucoup de bon sens, en fait.
De bon sens et d'expérience, parce que le bon sens, des fois, on croit l'avoir et on se trompe, parce qu'il y a des pièges. Alors on s'imagine qu'une remorque est bien équilibrée, qui appuie ni derrière ni devant, va tenir bien la route.
Et
c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que les caravanes, il y a longtemps, tenaient pas du tout la route. À 50 à l'heure, on prenait toute la route, ça se partait en zigzag. Parce que les premiers fabricants de caravanes mettaient l'essieu au milieu de la caravane, pour que ce soit bien équilibré.
Ah oui, alors ça me paraît super logique.
Alors que c'est pour ça que je vous dis, le bon sens, c'est quoi le bon sens? C'est surtout l'expérience, en fait.
Du coup, il faut qu'il soit où l'essieu pour être correct?
Pour qu'une remorque tienne bien la route, il faut qu'il y ait plus de poids à l'avant qu'à l'arrière. Donc on recule l'essieu, par exemple, par rapport à l'axe de 20 cm, pour donner un chiffre arbitraire.
Une idée.
Et puis on voit ce que ça donne. Et puis on essaye encore un peu plus, un peu moins. Si on met l'essieu complètement à l'arrière, on se dit que ça va bien tenir la route. Le problème, c'est qu'on rajoute beaucoup de poids devant sur la boule. enfin sur l'arrière de la voiture, et c'est la voiture qui tient plus la route à ce moment-là. Alors c'est toujours des problèmes
donc
de
c'est
compromis.
C'est le juste milieu.
Voilà, okay. Il faut trouver le bon compromis. Regardez une semi-remorque, elle a toujours les essieux à l'arrière. Et le point d'appui, il est complètement à l'avant de la semi-remorque sur un camion, mais qui est prévu pour porter 20
tonnes.
Oui,
effectivement, ils ont une forme spéciale.
Le,
oui.
Le problème de la voiture, du lambda, c'est qu'il y a une petite boule à l'arrière et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de poids dessus. Il faut qu'il y en ait assez pour que la remorque tienne la route, mais pas trop pour que la voiture ne soit pas déséquilibrée. Alors, c'est que l'expérience. Après, il y a l'écartement des essieux qui a une influence aussi. Donc quand on en a fait un modèle, on sait qu'en faisant le deuxième, on va s'inspirer du premier, et puis, etc. S'il est plus grand, on fait des compromis.
Oui, d'accord.
On essaye toujours.
Ok. J'aime beaucoup parce qu'on sent que c'est par itération, par test, par recherche que vous en êtes arrivé là.
Il n'y a pas de secret. Hein. Le secret, c'est de faire quelque chose, de voir si ça marche. Et puis quand ça marche, on y va. Quoi.
Alors, entretien du vent, qu'est-ce que vous préconisez, vous?
Moins on a de choses à faire, mieux c'est. En ce qui concerne nos vents et la plupart des vents des collègues, on a des produits qui sont inaltérables. Alors certains utilisent des planchers en aluminium, d'autres des planchers en plastique comme moi. Ça fait 25 ans qu'on met des planchers en plastique, on n'a jamais changé, c'est vraiment idéal. Il y a moins de résonance quand un cheval tape sur un morceau de plastique que sur un plancher en aluminium. Donc sur le plan du son, c'est plutôt mieux. Sur le plan du vieillissement, c'est très bien. Dans les deux cas, ça marche. Alors ce qui est important, c'est d'avoir des sols qui ne pourrissent pas, qu'un cheval passe pas à travers un jour. Et c'est arrivé énormément de fois. Tous les gens qui ont voulu faire des planchers en bois par rapport à un souci d'économie, l'ont payé un jour. Quoi. Donc parce qu'il y a toujours un accident qui arrive tôt ou tard.
Hein. Oui, à moins d'être vraiment vigilant et de regarder tout le temps.
Oui,
en gros,
mais même, parce que l'affaiblissement de la planche de bois ne se fait pas forcément en surface. Ça se fait par le milieu, on n'aperçoit pas quand on regarde. C'est là le piège. Alors un cheval qui appuie de 500 kg d'un seul coup, si la matière s'est un peu délitée à l'intérieur sans qu'on s'en aperçoive, c'est très très dangereux. Du coup, il vaut mieux utiliser des matières incassables, quoi, comme on utilise depuis longtemps. Et ça a toujours été ma hantise,
de voir
un cheval qui pédale sous le vent.
C'est la préoccupation principale des cavaliers. En termes d'entretien après, mais plus mécanique, on va dire, qu'est-ce que vous conseillez sur les pneus, sur le graissage? Mais plus l'aspect
si vous voulez,
mécanique.
Dans les parties mécaniques, y a deux essieux et un attelage. Alors, ce sont les parties qui s'usent en roulant. Les essieux, il y a des roulements et il y a des freins qu'il faut faire contrôler de temps en temps. Mais comme on ne roule pas autant qu'avec une voiture, on peut faire 5 ou 10 000 km sans trop se préoccuper de l'usure des freins. Ce qui est important, c'est d'avoir des freins bien réglés. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a une tringle qui relie les essieux à l'attelage, qu'il faut toujours avoir bien tendu, de manière à ce que quand on freine avec la voiture, la réaction sur les freins soit immédiate. Si ce n'est pas le cas, on abîme l'amortisseur de l'attelage et on s'aperçoit qu'on a des secousses quand on freine et quand on retire. Donc ça vient du fait que les freins ne sont pas réglés. Et comme personne s'en préoccupe ou peu de gens, on roule un peu, on use un peu les freins, ça allonge un peu les courses de freinage. Et puis petit à petit, si on ne retend pas, on abîme les amortisseurs d'attelage, ça fond du jeu et tout s'abîme. Donc il faut faire vraiment attention aux tringleries surtout. Après les graissages, il y a un peu de graissage à mettre dans l'attelage, mais ce n'est pas le plus important. C'est surtout la tension des câbles.
Qui c'est qui peut faire ça? N'importe quel constructeur automobile peut le faire ou c'est plutôt des spécialistes des remorques? Les deux?
Y en a qui s'intitulent spécialistes, mais c'est tellement simple à faire. N'importe quel particulier peut défaire un boulon et le retourner, enfin et le resserrer.
D'accord. C'est aussi simple que ça.
C'est très très simple à faire, la tension de la tringlerie. Mais après, si on ne sait vraiment rien faire de tout ça, on peut aller voir un garage quelconque. Et puis,
ils le font.
En général, ils sont tous aptes à faire ça. Et puis au pire, on nous passe un coup de fil, on explique au garage ce qu'il y a à contrôler, et puis voilà quoi.
D'accord. Question sur le marché de l'occasion. Est-ce que vous faites des reprises, par exemple?
Oui, on fait énormément de reprises.
Je peux venir avec mon vent Fautras?
N'importe quelle marque. Si vous voulez, nous, on a intérêt, compte tenu du nombre de personnes qu'on fait travailler, à vendre beaucoup. Il faut qu'on vende autant, au moins de vent qu'on est capable de fabriquer. Et ça passe par également. Si on avait tellement de demandes sans reprise, pour ne pas s'embêter avec ça, on dirait qu'on ne fait pas de reprises. Mais ça fait partie des obligations. Puis il s'avère que les vents d'occasion sont également beaucoup demandés. Donc faire une reprise pour nous, c'est pas un problème. Le tout, c'est qu'elle soit reprise à son juste prix. Après, on les passe toujours en atelier pour réviser tout ce qui est frein, plancher, tout ce qui constitue les points de sécurité ou de carrosserie générale. On les remet en état et on les revend avec une garantie.
Il y a un Argus pour les vents ou pas du tout?
Non, il n'y a rien d'officiel. Nous, on a fait un Argus en interne pour constater une décote. C'est normal qu'un vent d'occasion coûte moins cher qu'un neuf. Donc, plus le temps passe, plus ça décote. Mais il s'avère que, compte tenu qu'il n'y a pas de mécanique très importante, il n'y a pas de moteur, c'est assez simpliste la mécanique d'un vent. S'il est en bon état, même s'il a 10 ans, il vaut encore beaucoup d'argent par rapport à une voiture qui ne vaudrait plus rien par rapport à son point de départ.
Du moteur, comme il n'y a pas de moteur en cours.
Et puis
un
même
vent,
les voitures ont une décote beaucoup plus grosse, qu'il y a toujours des nouveaux modèles, il y a une évolution beaucoup plus grande dans les voitures. Alors même s'il y a des choses qui évoluent dans les vents, les modèles de 10 ans avant restent toujours très fonctionnels et se revendent très très bien.
Ça marche. Je reviens sur les innovations. Est-ce que vous avez des choses en ce moment dans les tuyaux qui sont encore secrètes et que vous allez dévoiler bientôt ?
J'ai rien de secret, surtout que dès que j'ai une idée, je la divulgue très vite. Parce que je suis toujours excité par ce qui me passe par les choses que j'ai imaginées, que je veux vite réaliser pour voir ce que ça donne et que je veux vite mettre sur le marché parce que je suis tout content de ma nouvelle idée. Alors, dans les produits qui sont en préparation, il y en a un qui est retenu pour le salon de cheval pour les innovations que j'ai proposées. Il n'est même pas encore réalisé. Alors j'ai intérêt à me faire vite parce que c'est dans 15 jours, 3 semaines.
Salon du cheval de Paris, du coup ?
Oui.
Ok.
Alors du coup,
c'est un sacré challenge, ça.
oui, surtout que je dois aller. Aujourd'hui, je suis à Lyon, demain, je suis à Vérone et après, je reviens. Il va falloir que je m'occupe de ça à fond. Alors ça consiste en un produit qui aide énormément au débourrage des chevaux. D'accord. En fait, j'ai créé un mannequin qui peut s'adapter sur toute taille de cheval, qui n'a pas la forme d'un homme, mais s'il y a une partie haute, une partie basse, qui peut se remplir d'eau, qui se fixe solidement comme une selle sur un cheval, qui permet de mettre sur un poulain, enfin un cheval qu'on débourre, un faux homme, qui aurait un certain poids et un certain volume. Ce qui fait qu'en travaillant ce cheval, soit dans un rond, soit aux longues graines, moi je travaille beaucoup aux longues graines, mais poulains, donc ça contribue à les dresser, à les soumettre tout en douceur. Et tout le secret est là. Qu'est-ce que c'est un cheval débourré ? C'est un cheval qui accepte en confiance d'avoir quelqu'un sur son dos. Et tout le secret, c'est de ne pas leur faire peur quand on les initie et de ne pas aller trop vite. Alors on peut aller très vite à condition de suivre une progression très, très réfléchie et que le cheval ne prenne jamais peur. Alors on peut débourrer un cheval dans la journée, comme en une semaine, mais bon. Et avec l'outil que je mets en place, que j'en ai débourré énormément, et je le fais toujours, j'ai 61 ans, je débourre mes chevaux tout seul, n'importe lequel, vous me le donnez, demain je suis dessus. Parce que j'ai des outils qui marchent très très bien, qui permettent de mettre les chevaux en confiance et de ne pas prendre de risques. Alors ce que je propose, là, c'est un mannequin qui permet de mettre le cheval en confiance, en toute sécurité pour le cavalier.
Le nom de ce produit ?
Je n'ai pas donné de nom encore. Okay. On va l'appeler mannequin de débourrage parce que c'est sa fonction, mais le nom, je n'en ai pas donné encore.
Et parce que maintenant que vous avez fait des jeux de mots comme faute astuce, faute trace fiche,
faudra peut-être m'aider, je ne sais pas. Je compte sur vous.
Est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose, des produits que vous avez envie de mettre en avant ? Sur ce salon, sur...
Là, je viens de développer un produit qui a son succès auprès des pros. Là, j'ai fait... Ça n'a encore rien à voir avec ce dont on vient de parler. C'est une muserolle. Parce que ça part toujours d'un problème que j'essaie de résoudre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai débourré un cheval qui passait la langue. Bon. Et puis, j'ai fait une chose toute simple qui marche très bien, qui donne beaucoup moins d'inconvénients au cheval et qui lui fait accepter le mort plus facilement. C'est une muserolle qui retire le mort vers le haut. Alors, on utilise, enfin, il faut l'avoir pour comprendre. On passe le mort dans des rondelles comme les rondelles caoutchouc, c'est un peu le principe. Et ces mêmes rondelles sont reliées par l'avant, sur le chanfrein. Alors, à partir de là, on fait une muserolle qui relie tous les éléments, qui est montée avec des montants élastiques et qui peut se resserrer par l'avant. Et l'intérêt principal de la muserolle, on peut raccourcir la partie du chanfrein. Ça permet de plaquer le mort vers le haut de la bouche. Et en tirant sur les rênes, on tire beaucoup moins fort sur la langue et le cheval a moins de compression et donc passe plus la langue. Et puis on s'aperçoit avec cet accessoire que des chevaux qui sont très délicats, qui lèvent la tête, qui arrachent les rênes, qui sont vraiment, qui répondent, qui réagissent à une contrainte qu'ils n'acceptent pas, sont beaucoup moins désagréables et réagissent beaucoup mieux, tout simplement parce qu'ils n'ont plus cette contrainte dans la bouche aussi forte. On partage la pression entre la bouche et le nez, et c'est tellement efficace que je suis content d'en parler, parce que c'est un produit que je propose, qui va avoir son succès assez vite, parce que tous ceux qui l'essayent en sont ravis, quoi.
Oui, puis qui change en plus de domaine pour vous, puisque là, on est plus dans le domaine du cuir, de l'équipement du cheval textile, entre guillemets, on va dire.
En ce qui concerne le textile, j'ai déjà fait des choses, protection de pluie. Enfin, si vous voulez, ce sont toujours des idées, mais pas spécialement mécaniques, quoi. Ça peut être dans n'importe quel domaine, donc c'est un problème qui permet de... On s'amuse à trouver une solution à un problème, point, quoi. Ça peut être dans n'importe quoi, même dans l'alimentation. Hein. J'ai trouvé des choses, je ne vais pas vous en parler là, mais ça n'a pas d'importance, mais...
Vous pouvez, hein, si vous avez envie de mettre en avant.
Non, aucun intérêt, mais, okay. Mais bon, c'est un jeu permanent, c'est la vie, quoi.
Et le nom du bridon, du coup ? Pareil, vous n'avez pas encore
réfléchi. J'ai pas cherché au nom, c'est une muserolle spéciale, il faudrait que j'y réfléchisse un peu.
Ça marche. Ouais. La dernière, j'aime bien faire le mot de la fin. Du coup, si je vous dis lien cavalier-cheval, en un mot, quel est le premier qui vous vient à l'esprit ?
C'est qu'il y a une espèce d'harmonie entre le cheval et le cavalier. Il ne faut pas que que le cavalier soit une contrainte pour le cheval. Il faut qu'il y ait une osmose entre les deux. Et c'est là tout l'art et tout l'intérêt de tout cavalier. C'est quand on commence à comprendre que par certains contacts ou certaines réflexions, on a une relation intéressante avec un cheval. C'est comme une histoire de couple pratiquement. C'est l'harmonie entre les deux, quoi. C'est le mot qui vient, quoi. Voilà.
Super. Un dernier conseil avant de partir sur l'embarquement.
Sur l'embarquement, acheter un bon Fautra, tout simplement.
Je pense que c'est le mot de la fin, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur Fautra.
Avec plaisir.
Hello à nouveau. C'est la fin de cet épisode. C'est pas sorcier de faire voyager son cheval. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris quelque chose sur le vent et que vous avez glané quelques astuces pour vos prochains voyages. Si cet épisode vous a plu, parlez du podcast autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à bientôt!